Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Patrick Sumy, bonjour.
Mais bonjour.
On se rencontre à B dans les vignes. Hein. On voulait aller au plan sur B. Vous m'aviez dit j'aimerais bien aller au plan sur B, mais voilà, le temps est pas maussade, mais un petit peu plombé sur les hauteurs. Donc on s'est rapatrié dans un coin idyllique. Hein, plateau de Chiètre, à B, les vignes, les vallons. On va parler de votre livre et de votre film, de votre expérience de vie aussi. Mais d'abord, rapport à la nature, hein, puisque on est là dans la nature et c'était votre volonté première que d'être au milieu de la nature. C'est une ressource importante.
Tout à fait, c'est mon nouvel univers. Donc, on est venu ici sur les hauts de baie, on est sous les dents de Morcle. C'est un haut lieu alpin,
à la cime de l'Est, de l'autre côté qui nous regarde aussi,
qui nous guigne. Et puis c'est un lieu où aujourd'hui, voilà, je viens régulièrement aussi avec des clients, où j'ai fait une partie de ma formation. Donc c'est un lieu qui m'est cher, puis qui représente un peu le futur.
Voilà, les clients et la formation, c'est une formation d'accompagnateur en montagne. On y reviendra peut-être à la fin de cet entretien, mais votre expérience à vous, c'est un long voyage à vélo. Alors, je ne vais pas dire rien d'original, parce que c'est quand même original, mais voilà, beaucoup de gens partent sur les routes, à pied, à vélo, en stop, c'est peut-être un petit peu moins à la mode aujourd'hui, en stop, à la voile, bien sûr. Mais il y a une raison particulière qui vous a poussé à écrire ce livre, c'est que vous étiez dans une carrière professionnelle florissante, et puis le livre s'appelle « Sur le fil », vous vous êtes retrouvé sur ce fil.
Complètement. Après 23 ans chez Nestlé, j'étais là où je voulais être, j'avais rêvé de ce poste, j'avais fait une belle carrière et à un moment donné, je me suis senti sur le fil, fatigué par un processus de licenciement, par un processus de restructuration. Et puis pour le coup, c'est moi qui l'ai fait, ça veut dire que c'est moi qui ai licencié. C'est moi qui ai licencié des gens que je connaissais bien, j'ai licencié des amis. Et puis, même si tout ça peut faire partie du job, quelque part, ça m'a laissé beaucoup d'émotions, beaucoup d'humanité qui, en fait, j'ai mis les gens dans une difficulté. Et ça m'a épuisé.
Bon, vous expliquez dans le livre et dans le film, hein, vous êtes un cadre intermédiaire, on va dire ça comme ça, dans cette multinationale chez Nestlé, avec un job qui vous plaît, vous aimez ce que vous faites, et puis arrive une conjoncture dictée par l'entreprise, ouais. Il faut se mettre à licencier. Mais ça, vous faites la distinction, hein. Vous dites « j'ai déjà licencié des gens, je suis chef d'équipe, j'ai licencié des gens, il y avait une faute grave, etc. » Bon, ça fait partie du job. Quand il s'agit de licencier pour raison économique, du coup, vous avez traversé des mois avec ça, hein.
Oui, alors c'est deux projets de plusieurs mois, deux vagues de licenciements. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'est pas préparé à ça. Quand on est manager, on est préparé à avoir des entretiens difficiles, on est préparé en effet à avoir des gens qui peuvent ne pas avoir les compétences ou ne pas avoir les résultats, notamment dans les ventes, mais ou qu'on fait des fautes graves. Ça, c'est jamais un gros problème que de licencier ça. C'est toujours une peine, mais à la fin, c'est l'entreprise qui veut ça et puis le niveau d'exigence. Par contre, quand les gens n'ont rien fait, qui travaillaient correctement, qui délivraient leurs objectifs et puis qui ont donné pour certains plus de presque 30 ans à l'entreprise et qu'on les prend un matin de juin par surprise pour leur dire que tout ça se termine. Et ça, c'est difficile. Et ça, on n'est pas prêt
avec une question,
à le faire.
Pourquoi moi ?
Avec toujours. Une question qui, ouais. Qui revient et qui est venue pendant bien du temps en voyage, où les gens vous regardent dans les yeux et vous disent « Mais pourquoi moi ?»
Bon, alors, ce livre et votre expérience, c'est votre expérience. Donc, on parle de vous, hein. Évidemment, qu'ils ont vécu des moments terribles,
bien
ces
sûr.
Gens à qui vous avez annoncé cela. Ça vous poursuit, d'ailleurs. Voilà, eux l'ont appris de façon brusque, vous venez de nous dire, un matin de juin. Vous l'avez traîné pendant des mois, parce que vous le saviez. Vous côtoyez des gens dont vous saviez qu'ils allaient être licenciés.
Bah, c'est tout cet univers un peu qui m'a fatigué. En fait, le premier élément qui m'a fait beaucoup de mal, c'est à un moment donné, c'est quand il faut préparer la liste des gens à licencier.
Ça veut dire que vous, comme cadre, vous devez faire des choix.
C'était ma responsabilité de mettre des noms sur une liste pour donner ça à ma hiérarchie, respectivement aux ressources humaines. Donc déjà là, c'est un exercice difficile où j'ai passé du temps à essayer de fixer des critères objectifs, somme toute, pour essayer de me décharger, moi, de ce côté émotionnel.
Si c'est strict, si c'est rationnel, voilà. La culpabilité sera moins.
J'ai amplifié un fichier Excel, etc. Voilà. Et puis, en fait, je me suis dit, tiens, ça va me décharger un petit peu.
Des petites étoiles, des couleurs, voilà. Etc.
Bon, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas.
Alors, ça permet de mettre une liste. Et puis, mais à la fin, c'est quand même une responsabilité que l'on prend. Le deuxième élément, c'est qu'une fois que cette liste est faite, il se passe des mois. Ça peut aller jusqu'à 3 mois de processus jusqu'à qu'on licencie les gens. Ça veut dire que pendant ces 3 mois, il y a la culture du secret. Ça veut dire qu'on sait qu'on va licencier quelqu'un, mais on passe ses journées avec, à travailler avec, à l'encourager, à le motiver, à le coacher.
À entendre ses projets.
À entendre ses projets de futures vacances, alors qu'on sait qu'au mois de juin, on le licencie. Mmh. Donc ça, c'est la culture du secret est extrêmement difficile à vivre. Ça dure des mois et puis on est dans le mensonge quotidiennement. C'est-à-dire qu'on ment aux gens à qui vous offrent leur confiance. Donc ça, c'est très difficile.
Bon, qu'est-ce qui vous fait vous rendre compte alors, j'imagine qu'il y a d'abord un constat, c'est « je vais pas bien », puis après, on peut l'expliquer peut-être plus tard. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous fait vous dire « je vais pas bien » ?
Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'était physique. Un jour, je pars skier à Rolin avec mon ami. Je fais beaucoup de ski de randonnée, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et puis on commence la montée, il y a des conversions, ceux qui connaissent ce sport-là, assez raide, mais voilà, j'ai l'habitude de ce sport, en principe ça passe sans problème. Et là, je glisse sur 5-6 mètres, et puis je m'effondre comme un enfant perdu dans le supermarché. Mais je pleure. Ça prend un peu de temps, je reprends mes esprits, je retrouve mon ami, on en discute, je replonge, je repleure. Bon. La suite du week-end s'est très bien passée, mais ça a été un signal physique et aussi une sorte de relâchement qui n'était pas moi. Là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. L'autre élément, c'est aussi psychique. J'étais irritable sur tout ce qui m'entourait. Tout m'énervait. J'avais vraiment aucune protection. Comme si on a une pelure sur nous qui nous protège des événements extérieurs. Et puis, je sentais que tout ce qui n'allait pas dans mon sens m'irritait, m'agressait. Des petites choses, hein, des petites choses au quotidien. Et ça, sur le plan professionnel, bien entendu, puis je n'étais pas d'accord avec tout à fait ce qui se passait, bien que tout ça se justifiait sur un plan business. Mais sur des choses très personnelles, avec mes enfants, avec mon ami, etc. Et là, heureusement, je suis très bien entouré. Mon ami, mes enfants et autres ont su me dire que quelque chose n'allait pas bien.
Cette situation, je suis sûr que celles et ceux qui nous écoutent la perçoivent comme quelque chose de très banal finalement, hein, être irritable, fatigué, être en inadéquation avec des moments particuliers de sa vie professionnelle, mais il y a un déclic, le déclic tout le monde ne l'a pas, celui de dire ok, il faut que je sorte de là, il faut que je m'en sorte. Ouais.
Alors il y a eu deux choses. Un, suite à ces événements-là, je vais voir les RH et puis les ressources humaines et qui m'envoient chez l'infirmière professionnelle, Thuro. Je rentre dans ce bureau, je pleure. Elle me tend les mouchoirs et puis Thuro a cette présence d'esprit de...
C'est son prénom, hein, vous en parlez dans le livre.
A cette présence d'esprit de me poser deux questions. Assez simple, somme toute. Elle me dit, mais Patrick, si tu dois évaluer le niveau de tes batteries comme celle de ton portable aujourd'hui, t'en es à combien ? Je pleure. Et puis, à un moment donné, je dis, 20%. L'entretien continue. Elle me pose des questions sans jamais juger, sans jamais me dire ce que je dois faire. Et puis, ensuite de l'entretien, elle me repose une deuxième question. Elle me dit, mais non, c'est 20%. Tu vas en faire quoi ? Et ça, ça a été un des éléments. Et le deuxième, je me souviens d'une nuit d'insomnie où les choses sont apparues beaucoup plus claires. J'ai compris que l'environnement dans lequel j'évoluais Nestlé en particulier, le business commercial en particulier, n'avait pas changé. Nestlé était comme ça il y a 23 ans quand je suis rentré, c'était déjà une multinationale, c'était déjà une société anonyme, il y avait déjà la pression, il y avait beaucoup de choses, on licenciait déjà sans doute, simplement que c'était moi qui avais changé, c'était pas l'environnement.
Alors ça, c'est intéressant dans votre livre, hein, parce que
c'est moi qui suis malade.
Je pense que
c'est pas moi.
Chez vos spectateurs, hein, pour le petit film, ouais, qui est suivi par une discussion avec vous en général, hein. D'ailleurs, il y aura une date à monter prochainement. On la donnera à la fin de cette émission. Et vos lecteurs, il doit y avoir un moment d'incompréhension parce que vous avez des mots, vous mettez les mots assez justes, hein, sur le système, sur comment il peut être broyeur, mais vous refusez d'aller au-delà de cette description. En fait, c'est pas la faute du système pour vous.
Alors, ça peut être le système, la société,
de l'entreprise, en tout cas.
C'est pas la faute de l'entreprise. Je ne crois pas qu'il soit bien et bon de mettre le burn-out entre l'entreprise et l'employé. Parce que déjà, c'est pas comme ça qu'on va créer le dialogue. Pour parler de ça, c'est déjà très difficile aujourd'hui d'en parler parce que c'est tabou et puis tous ceux qui cherchent
de l'emploi, il faut retrouver du job
et puis le mieux c'est de se taire. Donc c'est pas en essayant de mettre l'un contre l'autre qu'on va faciliter ça. Et puis après, c'est une responsabilité commune. Oui, le système est difficile, oui, il y a des licenciements, oui, il y a de la pression et de la performance, c'est certes, mais voilà, moi j'ai évolué dans ce domaine-là avec beaucoup de passion et puis de motivation pendant 21 ans. C'était bien, j'étais heureux. À un moment donné, c'est moi qui ai choisi un autre chemin, peut-être inconsciemment aussi. Et puis que tout ça me convenait plus et me satisfait plus. Donc, je fais le bilan que ça, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux aller là. Donc voilà. Et puis ce tiraillement, c'est ça qui m'a à un moment donné fatigué. Mmh. Mais voilà, les licenciements, c'est pas facile, mais c'est pas nouveau dans ce domaine-là. Donc il faut pas. Non, je veux pas mettre en opposition les deux. Moi, Nestlé m'a fait une carrière. J'étais là où je voulais aller. Ils m'ont très bien traité. Ils m'ont bien payé. Et il n'y a pas lieu aujourd'hui de cracher sur la soupe.
Bon, on va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette émission, Patrick Sumur. On va parler du voyage aussi un peu, hein, parce que c'est lui qui vous ressource et
volontiers,
qui vous offre votre nouvelle vie. À tout de suite.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, Patrick Sumi, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, parler un peu de ce voyage que vous avez fait. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur ce qu'on abordait à la fin de la première partie, c'est-à-dire la responsabilité ou non, finalement, du système, d'une entreprise, etc. Moi, j'ai compris votre raisonnement, hein, dire, voilà, les entreprises, comme les autres, comme les humains, finalement, doivent vivre dans un contexte, dans une société qui est une société de compétition, de profit, de etc. Et je dois vous dire que j'aurais mieux compris cette théorie si vous aviez bossé à la carrosserie du coin, que comme vous, en bossant dans une multinationale qui comme les autres multinationales font un peu la société, hein, parce qu'on peut dire la société a une influence sur les entreprises, on peut aussi dire les grandes entreprises, et bien le sûr. Système a une influence sur la société, donc cette ultra performance, ce besoin d'avoir des performances chez les employés, mais des dividendes pour les actionnaires, etc. Vous l'abordez, hein, vous le critiquez d'une certaine
bien
façon,
sûr, ouais.
Mais voilà, vous faites pas le pas de dire le capitalisme c'est pas bien.
Alors c'est pas bien, simplement qu'on peut pas vivre du capitalisme et puis en même temps marcher dessus. Donc c'est des choix. C'est vrai que ça m'a rendu heureux pendant longtemps. J'ai fait 30 ans dans
l'entreprise. On peut ne pas cracher dans la soupe, comme vous
et
le disiez.
Puis, hein, ouais. Et puis aujourd'hui, oui, c'est un système qui broie, c'est un système qui va vite, de performance. Et puis j'aime bien faire la différence entre l'entreprise, ce côté immatériel qui est broyeur, le côté corporate, et les gens qui sont dans l'entreprise. Et puis ces gens, moi j'ai été vraiment très 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 bien entouré, on m'a écouté dès que j'ai levé la main, parce qu'encore une fois, tant que j'avais pas levé la main pour dire je suis fatigué, le rouleau compresseur il tourne. La performance elle est là, il y a de l'exigence, il faut délivrer. Moi dès que j'ai levé la main, et puis que j'ai dit à ma hiérarchie et aux ressources humaines que j'étais fatigué et pas bien, les choses se sont mises en place. On m'a écouté. Donc je pense que j'ai eu des gens très bien en face de moi. Il faut faire la différence entre les gens et le corporate. Mmh. Et des fois, ben voilà, les
c'est
gens.
C'est pour ça qu'on parle plutôt de système que d'entreprise.
Système,
hein.
Et puis voilà.
Bon, on va partir sur les routes avec vous parce que cette fatigue-là, vous avez décidé de la combattre en pédalant, ce qui est original. Mais bon, vous êtes un sportif. Hein. Vous nous avez parlé de la montagne, etc. Vous avez déjà fait. Vous faites du trail, vous faites des tas de choses qui requièrent une condition physique. Et puis, vous aviez un vieux rêve, celui de partir seul à vélo. Donc voilà, c'est pas un voyage punition, c'est pas un voyage rédemption. C'est un voyage plaisir en fait que vous entamez.
Ah, complètement, c'est un rêve que j'alimentais depuis 25 ans et qui m'a toujours omnibulé. Et je me suis dit un jour, je partirai seul avec mon vélo. Puis ça ne s'est pas trouvé parce que voilà, la vie, le travail, la famille, bien que on est parti faire un tour du monde en 2007-2008 en famille, mais j'avais toujours ce tour du monde, il n'est pas venu calmer ma soif de voyage en vélo tout seul. Je pense que le voyage en vélo seul, c'est le summum du voyage. C'est la simplification à l'extrême. On peut le faire à pied.
Un peu plus de simplification si vous y allez à pied encore. Hein.
Ah oui, ben voilà. Mais le vélo, on chemine rapidement quand même. On peut faire jusqu'à 100, 150 km par jour. Donc on peut vraiment faire de l'itinérance et voir du chemin. Et puis il y a ce côté que j'aime bien, c'est le vagabond cycliste. Et j'aime le côté vagabond, il a un côté noble, extraordinaire. Parce que quand on est vagabond, puis qu'on rencontre des gens, j'ai été accueilli chez des gens de manière extraordinaire. Les gens m'ont ouvert leurs portes, m'ont donné la clé de leur maison, parce que, par simple humanité. Pas parce qu'on a un statut, pas parce qu'on est quelqu'un, pas parce que, je sais pas, je suis le copain du voisin. Ici, c'est juste parce qu'il y a de l'humanité, et les gens vous accueillent, vous donnent à manger, vous font dormir.
Il y a quelque chose de très intéressant dans votre itinéraire et les mots que vous utilisez, qui est une sorte d'éloge de la fragilité. Hein. On est fragile, on est sur un vélo, on se fait frôler par des camions, et cette fragilité fait qu'on n'est pas dangereux et que les gens n'ont pas peur de vous. Si vous aviez voyagé dans un 4x4, ça n'aurait pas été la même expérience.
Ah, complètement. Justement, c'est ce dénuement, cette simplicité de regrouper l'ensemble de ses besoins. Tente, sac couchage, à manger sur un vélo. Et puis, il n'y a plus besoin de réfléchir au quotidien, de savoir qu'est-ce qu'il nous faut pour dormir. Donc, on se libère. Et puis, à la fin, c'est aussi cette libération de la pensée qui nous permet de se retrouver soi-même. Alors certes, on est fragile, et ce qui fait que les gens sont solidaires avec nous. Ils sont solidaires avec nous parce que les gens, quand ils vous voient sur le bord du chemin, en train de chercher quelque chose, les gens s'arrêtent. Mmh. Les gens s'arrêtent, et puis, alors j'en parle un peu dans le film, mais au fait, cette arme extraordinaire que le voyageur a et que tout le monde a, c'est le sourire. Le sourire fait des miracles. Il suffit d'une rencontre, un regard, un sourire, pour que les portes s'ouvrent.
Il y a beaucoup de gens que vous rencontrez, hein, souvent avec la barrière de la langue, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais vous partez vers le Cap Nord, hein, donc au bout du bout de l'Europe, vers le Nord, donc vous traversez d'abord des pays de langue allemande, puis après ça se complique, la Pologne, les pays baltes et les langues scandinaves. Donc évidemment, il y a l'anglais qui sauve, mais voilà, beaucoup de gens vous disent « mais t'as pas peur ». Donc vous ne faites pas peur, et puis on s'étonne que vous n'ayez pas peur.
Ouais, j'étais très surpris de cette question-là. Les gens me disaient « mais vous n'avez pas peur ?» Sous-entendu, peur des gens.
Voilà, c'est pas peur de l'ours. Hein.
Non, justement, alors que moi j'avais peur de l'ours. Hein. j'étais un peu... parce que je traversais deux régions avec des ours. Et puis au fait, les gens me demandaient tout le temps « est-ce que vous n'avez pas peur ?» En Pologne, en partout. J'ai eu cette même question. Et non. Non, j'ai pas eu peur, au contraire. Je n'ai fait que rencontrer de la bienveillance, de l'hospitalité et autres. Je crois que... Alors, les peurs, c'est le résultat de nos pensées. Donc, moi, j'ai pas ces pensées-là. Et puis, voilà. Donc, il faut... Moi, il faut faire confiance à l'humain. L'humain est extraordinaire. L'humain est bon. C'est des fois le contexte qui est pas bon. Mais en tout cas, en voyage, je n'ai jamais eu de malveillance ou des gens qui ont voulu me faire du mal. En tout cas, je ne l'ai pas perçu. Et puis, comme je le dis, je pense que le 99%...
Vous avez justement plein d'expériences de vraie solidarité, hein, de moments où on lui dit, bah, tiens, prends la clé de chez moi. Confiance dingue. Vous vous interrogez, vous dites, mais est-ce que moi, je donnerais la clé de chez moi à quelqu'un qui vient y passer une nuit et puis je lui dis, laisse la clé dans la boîte aux lettres parce que moi, je dois partir tôt demain matin.
C'est une vraie expérience et puis ça soulève des questions incroyables parce que autant j'ai été accueilli chez Gustave en Autriche qui m'ouvre sa maison, qui fait une parenthèse de sa vie de 12 heures entre l'après-midi où il me fait une soupe, un souper, il me met au lit, il me prend le déjeuner le matin et il me fait un bon café. Il a 93 ans. Je me dis, mais est-ce qu'à 93 ans, moi, j'accueille un vagabond mouillé, transpirant, et puis j'y offre ça. Il y a aussi cette Polonaise, dont j'ignore le nom, je regrette ça, vraiment. C'était tellement éphémère qu'elle m'a laissé mettre ma tente dans son jardin, et puis elle m'a dit, voilà, vous pouvez aller vous doucher si vous voulez. Et dans la soirée, elle vient, elle me dit, ah, Patrick, ouais, écoutez, demain, on ne sera pas là, mais... si vous voulez, vous pouvez utiliser la salle de bain, tenez la clé, puis vous la remettez dans la boîte aux lettres. Puis je me dis, waouh. Alors le matin, je suis rentré dans la maison, un peu en catimini, et il y avait encore le laptop sur le canapé, il y avait toutes ces affaires-là, comme si ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. Et je me dis, waouh, est-ce que moi, je serais capable de faire ça?
Bon, ça, c'est l'humanité. Vous le relevez, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est vous, si c'est dans la préface, vous êtes quand même un vagabond avec une carte de crédit, un vagabond avec une possibilité d'aller à l'hôtel, un vagabond, peut-être aussi, ça, c'est moi qui le rajoute, avec la bonne couleur de peau. Hein, l'accueil n'est peut-être pas forcément le même dans nos sociétés. Si vous aviez été d'une autre race, d'un autre statut social, c'est une question. Est-ce que vous voulez l'être posée?
Non, jamais. Justement, le statut social fait que quand on est en vélo, il n'existe plus. Parce que vraiment, on n'est pas très reluisant. Hein. Après une journée de vélo, on est transpirant.
Ouais, mais on voit que vous n'êtes pas un réfugié syrien.
Oui, alors ça, c'est, peut-être. Je n'ai pas ce sentiment-là. Et je vois quand même, je suis beaucoup de vagabonds cyclistes sur les réseaux. Je crois que dès lors qu'on est sur un vélo en voyage, la solidarité se confirme.
Bon, c'est heureux. Moi, j'aimerais qu'on quitte la solidarité. On l'a bien compris pour entrer peut-être un peu plus dans l'introspection du voyage. Hein. Il y a évidemment l'exercice de la solitude. Ça, vous l'avez relevé. Il y a celui du dépouillement aussi. Hein. Il faut résumer sa vie à quelques sacoches. Dépouillement un peu geek pour ce qui vous concerne. Hein. Vous avez quand même embarqué l'ordinateur, le drone. Bon, vous aviez l'idée de faire le film, quoi.
Alors, moi, je suis pas un geek, mais par contre, ouais, j'avais l'ambition de faire un film. Donc, et puis j'avais pas envie d'emmener quelqu'un pour filmer. Donc, il a fallu que je m'y colle. Donc, je suis parti, en effet, avec mon téléphone portable, avec une caméra portable et un drone. Et puis, voilà, il faut porter tout ça. Et puis, j'ai fait mes images moi-même. Ça demande un peu de discipline, ça demande un petit peu de temps et puis de prise d'image et de son. J'étais très bien conseillé par un ami qui a fait le montage de ce film. Et puis, c'est...
Bon, c'est le dépouillement hein, qui était le mot intéressant pour moi. Et puis, cette idée aussi, vous y revenez d'ailleurs presque à mi-chemin. Hein. Vous avez fait déjà plus de 2000 km. On est sur 5200 km quand même, hein, de Lutry sur les bords du lac jusqu'au Cap Nord. Où vous, en tout cas, c'est à ce moment-là que vous en parlez dans le livre, où vous dites, il y a un vrai combat, et je crois que je l'ai gagné, sur lutter contre la tentation de la performance. Hein. Arriver à s'en foutre de ne pas faire les 110 km qu'on avait prévu, mais peut-être d'en faire 90, de ne pas faire 90, mais peut-être d'en faire 120 pour trouver un endroit plus agréable pour dormir, de se laisser aller à ce qu'est le vagabondage finalement.
Il m'a fallu du temps pour quitter ce mode de fonctionnement qui m'a habité pendant 30 ans, je pense. Hein, parce que, quand on travaille, on se lève le matin, on passe les tâches les unes après les autres. Et puis je suis parti en voyage un petit peu comme ça. Ça veut dire que je me dis, bon, aujourd'hui je vais jusqu'à tel village, ça fait 80 km. Allez, je roule, j'y vais. Puis quand j'ai fini, je regarde ce que je peux faire, je m'installe. Et puis à un moment donné, il a fallu presque un mois et demi pour sortir de ce mécanisme et de profiter de mes journées. À partir du moment où je me levais le matin, je roulais un moment, je m'arrêtais, je buvais un café, je me faisais une terrasse l'après-midi, la midi, puis après peut-être des fois une sieste, et puis je finissais de rouler des fois à 20h, et puis plus j'allais vers le nord, plus le soleil de minuit me souriait. Donc j'avais du temps, et je me suis après surpris à rouler des fois jusqu'à 1h du matin.
Bon, le soleil de minuit, ça fait rêver, mais avant ça, vous êtes ramassé quand même des intempéries. Hein. Beaucoup, beaucoup de pluie, de froid. Pluie,
Toute l'Autriche sous la pluie, j'ai appelé ça dans le livre. C'est le test autrichien. Ouais.
Bon, Patrick Semy, il nous reste une minute. Vous avez compris quoi à la fin?
Alors, j'ai compris que... déjà que j'avais passé un moment difficile et puis que pour ça, j'ai trouvé les ressources de prendre du recul sur le vélo. Le vélo m'a reposé, vraiment. Je ne suis pas rentré avec toutes les questions que je me posais, notamment sur ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, ça a pris du temps. Ces questions, elles sont répondues. Ça fait une année et demie que je suis rentré. Donc aujourd'hui, je me concentre sur la prévention du burn-out et la montagne. Donc ça a pris du temps aussi pour quitter ce statut que j'avais pendant ces dernières années. Et puis aujourd'hui, c'est la montagne et puis et la prévention du burn-out qui me tient à cœur.
Vous allez aujourd'hui de ville en ville en Suisse romande avec ce film qui s'appelle donc comme le livre Sur le fil, Lutry Cap Nord à vélo. Il fait une quarantaine de minutes. Hein. C'est pas un long film, mais il permet d'introduire finalement la discussion que vous avez avec les gens qui se déplacent pour ça. Il y aura une soirée au cinéma Plaza le 20 novembre à 18h30, c'est mercredi mercredi ce 20 novembre à Monté au cinéma Plaza, Lutry Cap Nord à vélo, on a parlé du film, c'est aussi ce livre donc paru aux éditions Slatkin. Merci à vous.
Merci beaucoup.